culturel du moment et vos nuits s'ouvriront ainsi car...
De toute façon, pour y voir clair, il faut rester ouvert la nuit.
Ouvert la nuit. Tous les soirs, à partir de 21h.
Et si j'étais là-bas, j'entendrais un répondeur. C'est là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Salut Daniel et bonjour à tous les AMG. Je te remercie pour ton émission d'hier. Lorraine Cœur d'Acier. Quel joli titre pour se mobiliser, pour défendre l'emploi en Lorraine. Je suis moi-même Lorrain et je ne connaissais pas cette histoire de ma région. Alors je voudrais saluer tous ces acteurs là qui déjà en 79 étaient mobilisés contre la perte de l'emploi dans notre région. Voilà, donc je suis un peu fier aussi, tu vois, de savoir que c'était l'une des premières radios qui donnait la parole aux Français qui perdaient leur emploi. Voilà, merci Daniel et j'embrasse toute ma Lorraine. C'était Didier. Ciao.
Depuis 50 ans, plus 47 ans surtout que j'écoute France Inter, et là-bas si j'y suis et tout, je constate la lente agonie de l'industrie française, à tout point de vue, les aciéries, la Lorraine et tout ce qui s'ensuit. Tout. Et depuis plus d'une trentaine d'années, ces délocalisations et tout ça, on ne tient plus compte de la valeur du travailleur, de l'être humain travailleur. Voilà. Je vous entendais il y a quelques mois, vous étiez dans la vallée de la Maurienne en matière d'aluminium et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et c'est la lente agonie, c'est l'industrialisation qui était merveilleuse au 19e siècle, mais la technologie est tellement rapide que, c'est vrai, le temps nous manque. Mais surtout, et je pense qu'il y a la déshumanisation de l'individu. Voilà. On se fout du travailleur. On ne donne plus de valeur au travail.
Ouais, salut Daniel, salut toute l'équipe. J'ai écouté ton émission là sur les radios libres, ces témoignages anciens qui ont pratiquement 25 ans et qui parlent notamment du travail et du rapport au travail. Et là, j'écoutais les infos sur France Culture et ils interviewaient des gens qui sont rentrés à Aulnay, donc sachant que l'usine va être fermée. Et donc, ils parlaient de leur boulot et ça m'a fait penser à cet auditeur qui a laissé un message la semaine dernière et il attaquait un petit peu Fakir et puis il remettait en cause la notion de travail en parlant de décroissance et tout. Et c'est vrai que, bon, quand on a la chance d'avoir un boulot qui nous plaît, la vie est quand même beaucoup plus simple, mais il y a quand même un paquet de gens qui se font chier la vie à aller bosser dans des trucs qui leur plaisent pas, où ils s'emmerdent en règle générale, et c'est de là que vient le mot de travail, hein, le tripalium. Et ça serait pas mal qu'on y retourne. Bon, enfin, on va écouter l'émission avec attention. Je pense que les gens de la CGT risquent aussi de nous parler du travail. Ciao, viva, portez-vous bien.
Bonjour, Daniel. Eh bien, en ce jour de rentrée scolaire, où notre ministre de l'Éducation nationale prêche la morale laïque, eh bien, je pousse un coup de gueule en ayant appris que M. Bernard Tapie, qui a été ministre de Pierre Bérégovoy et de François Mitterrand, loue son yacht de luxe, 570 000 euros par semaine. Au moment où on demande des efforts à la population, qu'elle soit riche ou pauvre du pays et de l'Europe, eh bien je me demande si on ne marche pas sur la tête. En espérant que M. Tapie remerciera Nicolas, et puis que notre gouvernement actuel et notre président François Hollande appliquera l'impôt sur le revenu, comme il le faut. Salut Daniel, au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Je vous appelle de la Martinique pour vous dire mon indignation. Nous recevons TF1 par satellite. Je n'écoute jamais TF1, mais une vieille dame de mon quartier qui, elle, regarde cette chaîne et qui vient de m'apprendre que TF1 est venu filmer l'hôpital de Fort-de-France, qui actuellement s'agrandit. Il y a donc des travaux aux alentours. TF1 n'a rien trouvé de mieux à faire que de filmer ses travaux en cours et uniquement ses travaux. Et dire que Johnny Hallyday était soigné dans un hôpital de brousse, qu'il devait partager sa chambre avec quelqu'un d'autre, alors que c'est faux, et qu'il préférait manger la bouffe du McDo plutôt que celle de l'hôpital. L'hôpital de la Ménard, c'est son nom, est connu pour être le meilleur hôpital de la Caraïbe, pour la qualité de ses soins et de son accueil. Je ne fais pas partie de l'équipe médicale, je suis simplement une Martiniquaise qui en a assez des clichés qui vont du paternalisme condescendant au mépris le plus inepte. La Martinique, heureusement ou malheureusement, c'est aussi la France, et la qualité des soins vaut ici comme dans n'importe quelle région d'Hexagone. Chantal, de Martinique.
Poème de rentrée. Les vacances sont terminées. Les vacanciers bronzés de la tête aux pieds sont rentrés. avec le porte-monnaie, allégé, voire troué. Pendant ce temps, le courrier s'est accumulé. Les factures sont arrivées. Il faut les régler. Toujours et toujours payer. Entre-temps, tout a augmenté. Ça va gueuler. Ça va hurler. L'austérité, la précarité sont toujours d'actualité. Quand on finira ruiné, on dansera devant le buffet. La bourrée défauchée.
Oui, bonjour, c'est Josette de Troyes. Je vous appelle pour Soli Médical. C'est une équipe de 5 nanas qui ne touche pas de salaire depuis 9 mois. Donc je pense que vous en avez entendu parler. C'était pour faire un appel aux dons. Donc comité d'entreprise, mairie de Plancy, 13 rue Pierre Labonde, 10-380 Plancy-l'Abbaye. Merci, ce serait sympa pour elles parce qu'elles sont vraiment au bord du gouffre. Au revoir et merci beaucoup.
Merci beaucoup, je répète l'adresse des femmes de Sodi Médical, comité d'entreprise, mairie de Plancy, P-L-A-N-C-Y, 13 rue Pierre Labonde, 10-380 Plancy-l'Abbaye. Comité d'entreprise mairie de Plancy, 13 rue Pierre Labonde, 10-380 Plancy-l'Abbaye. Les femmes de Sodi Médical, merci beaucoup pour tous ces messages. Et je vois que la récolte du pistou est terminée à Fayence et que les oreilles se rapprochent du front un peu partout et ça tombe très bien. Aujourd'hui, deuxième volet du chiffon rouge de l'aventure de Lorraine Cordassier. Le chiffon rouge, c'est un morceau de chiffon rouge, c'est le titre de ce coffret de 5 disques audio, 5 CD et un film qui sortent sur cette aventure, l'aventure de cette radio libre de 1979 à Longwy, qui a été témoin et aussi protagoniste de la lutte des mineurs et les sidérurgistes de Longwy contre la destruction de leurs emplois. C'était une première, un des premiers coups de boutoir contre l'industrie en France. Et il y a eu cette radio qui a débordé sa vocation, qui a débordé le cadre qui lui avait été assigné par la CGT pour devenir plus ouverte, plus libre. Et on va voir aujourd'hui comment cette aventure s'est terminée. Mais avant la fin, eh bien, il y a eu toutes ces émissions avec tous ces témoignages, tout ce travail d'une population, travail radiophonique, travail médiatique, travail journalistique, improvisation, bonheur, plaisir, qui aujourd'hui, eh bien, 79-2012, constitue un document et un témoignage formidable sur cette époque. On va retrouver nos invités, Marcel Triat, qui est toujours journaliste et réalisateur et qui l'était à l'époque. Il était l'un des animateurs de cette radio, avec Monsieur Dupont, son confrère. On va retrouver Michel Olmy, qui est ex-délégué CGT de Longwy et qui était l'un des instigateurs de cette radio, Alain Delmas de la CGT aussi, qui est membre du Conseil économique, social et environnemental aujourd'hui, Ingrid Hayes, qui est une historienne qui a fait un long travail sur les archives de cette radio, parce que la chance a voulu que ces archives soient conservées. Et puis, ceux qui ont contribué à réaliser ce coffret, Frédéric Rouziès, Pierre Baron et Raphaël Moutarde. Raphaël Moutarde, ex là-bas si j'y suis, qui a participé et collaboré à la réalisation de ce document radiophonique. Donc aujourd'hui, deuxième partie, une réflexion sur, au fond, sur la parole des gens. Qu'est-ce que c'est donner la parole aux gens et qu'est-ce que c'est quand les gens la prennent, cette parole? Leur donne-t-on? La prennent-ils? Et sommes-nous bien tous égales dans cette part de liberté d'expression? Eh bien, dans les médias, les radios, les télévisions, est-ce que vraiment nos radios et nos télévisions, publiques au moins, sont le miroir du pays? Question auparavant, avant la réponse, qui risque de se faire attendre, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. La rentrée du repère d'Aix-en-Provence aura lieu ce jeudi 6 septembre à 19h30 au restaurant Les Cousins, 40 avenue Robert Schumann, devant la Fac de Lettres. Nous ferons le bilan des premières rencontres d'économiques que le Repère et d'autres associations ont organisées début juillet. Nous ferons également le point des premiers grands rendez-vous qui sont déjà posés pour cette nouvelle saison. Bonne journée à tous.
Salut, un petit message pour les AMG de Haute-Loire. C'est la rentrée pour notre café Repère, qui d'ailleurs n'a pas eu de répit cet été. Mais on se retrouve pour cette rentrée jeudi 6 septembre à 19h30 devant l'église Saint-Laurent au Puy-en-Velay. Et puis ensuite, on va faire un pique-nique partagé, donc chacun apporte à boire et à manger. Et puis, ce sera l'occasion d'organiser un peu l'année de notre repère à venir. Donc venez avec des idées, des thèmes, des idées d'organisation, tout ça. Et puis pensez à prendre un petit tapis étanche parce que l'herbe risque d'être humide au bord de la rivière. Voilà, donc rendez-vous pour les Altiligériens à 19h30 devant l'église Saint-Laurent au Puy-en-Velay.
Bonjour à tous. Après l'interruption du mois d'août, nous reprenons nos réunions au repère de Monchy-Breton dans le Pas-de-Calais. Rendez-vous donc chez Tartous et compagnie à partir de 18h30 ce jeudi 6 septembre. Voilà, la lutte continue.
C'est parti la pause musicale, Léonard.
Réveille-toi.
Il est effondré derrière son magnétophone. C'est une catastrophe aujourd'hui, Léonard.
Oui, c'est parti.
Ah bon, formidable. J'ai rien dit, Léonard.
Par exemple, vis-à-vis des immigrants, oui. Fait un temps, puis qui n'est pas si vieux que ça, parce que ça date tout juste avant de la radio. J'étais dans un bar en train de boire un verre, il y avait un enfant qui venait boire un verre à côté de moi. J'avais les poils sur les bras qui se redressaient. C'est des gens que je n'aimais pas.
Qu'est-ce qui t'a changé ça?
Ben, c'est de les voir venir eux-mêmes. À la radio, expliquer leur vie chez eux, comment est-ce qu'ils vivent chez eux, les répressions qu'ils ont chez eux, et ce qu'on ne sait pas, les répressions qu'ils ont en France aussi.
Lorraine Cœur d'Acier, bonjour. Je vous rappelle que vous êtes sur 100 MHz en modulation de fréquence et que notre numéro de téléphone est le 223 22 35.
Salut, c'est Daniel Mermès, et là-bas si j'y suis. Un morceau de chiffon rouge, histoire de Lorraine Cœur d'Acier.
Flight number 2, arriving from
New York. J'avais entendu causer un petit peu de Lorraine Cœur d'Acier.
Non, je sais que vous êtes à peu près la seule radio libre tolérée par le pouvoir, finalement. Je ne vais pas vous emmerder là d'entrée, mais à votre place, je m'inquiéterais.
On est un petit peu brouillé avec
Lorraine Cœur d'Acier, 99 MHz. Dans la journée, on va changer de fréquence, ça sera 102 MHz.
Alors faites bien attention, prenez vos copains, vos voisins, etc. Je crois qu'on restera à 102, enfin j'espère, si la technique arrête de plaisanter avec les fréquences.
On peut y aller? C'est parti.
Vous avez un poste de radio là, s'il vous plaît?
Non, je suis dans une cabine.
Ah bon?
Maintenant, on va passer où?
Alors, Daniel, qu'est-ce que tu as comme premières impressions? Alors, Daniel, qu'est-ce que tu as?
En 1789, on a pris la Bastille. En 1968, on a pris la parole. Longtemps, les fossoyeurs de 68 ont répété ça en ricanant. Mais c'est vrai, ils ont raison. Mai 68 a été le printemps de la parole. On parlait partout, et pas seulement à la Sorbonne et au théâtre de l'Odéon occupé, mais on parlait dans les usines en grève, sur les chantiers arrêtés, au coin des rues la nuit, sous les platanes, on parlait encore. C'est un verrou qui a sauté alors. C'est une digue. On parlait avec des assureurs, avec des pompiers, avec des bourgeoises blondes, des poinçonneurs des lilas, et même des voisins de palier. Les amants ont oublié de faire l'amour, ils parlaient jusqu'au matin, et ça revenait au même, ouais. La parole fut la Bastille de 68. Bien sûr, aujourd'hui, les confisqueurs de parole sont montés sur leur perchoir, mais pas tout à fait comme avant. Cette liberté-là ressemble au dentifrice, une fois sorti du tube, pas facile de l'y faire rentrer à nouveau. Surtout chez les modestes et les inaperçus, ceux que les braillards révolutionnaires de l'époque appelaient les masses et que la bourgeoisie d'alors appelait la France profonde. Ce fut avant tout des révolutions intimes, oser dire, oser contester, oser relever la tête. De la petite révolution, c'est vrai, sans pavé ni drapeau, n'empêche, ces libérations-là ne s'oublient pas de sitôt. Notez que c'est dès l'école que le populo se fait couper la chic. C'est bien là qu'il se fait clouer le bec, silence dans les rangs. La lutte des classes commence en classe. Et même avant, à la maison, silence à table, écoute ton père, le curé du haut de sa chaire, le tribun à la tribune, le président à la TSF, le grand leader sanglé dans son uniforme couleur cacadois, le dominant parle, le dominé la ferme. S'il parle le dominé, c'est que le dominant lui accorde généreusement la parole. Mais c'est uniquement pour la gouaille, l'argot si pittoresque, la touche d'authenticité, l'émotion ingénue, ou alors pour cette vérité qui lui sort de la bouche comme celle qui sort de la bouche des enfants. Mais qu'il ne s'avise pas de sortir de sa réserve d'indigène pour devenir un protagoniste à part entière, qu'il n'espère pas devenir un acteur capable d'éclairer ses semblables. Certes, il est permis au petit peuple de poser sa question à l'antenne. Sa question, pas sa réponse, comme on lève le doigt à l'école. La réponse, c'est l'expert qui la délivre. L'élu, l'élite, celui qui parle de haut, le haut-parleur. Mais, il y a parfois des parenthèses dans cet interminable mépris. Parfois, quelques embellis. Après 68, il y eut quelques années où le paysan et le travailleur comptèrent parmi les héros d'une jeunesse qui demandait la lune. Pas que la jeunesse d'ailleurs, Jean-Paul Sartre vendait la cause du peuple, de vieux poings se serraient au passage des drapeaux rouges ou noirs, c'était l'anniversaire de la Commune de Paris, on chantait « Les mauvais jours finiront » dans la quatrelle des vacances, en même temps que « Working Class Hero » en imitant Lennon, pas de doute, seule la force ouvrière pouvait terrasser l'hydre capitaliste et nous conduire au paradis. On arrivait sur le plateau du Larzac. On disait, c'est dans les rites des paysans qu'il faut lire notre avenir désormais. La petite bourgeoisie intellectuelle s'entichait d'accordéon auvergnat et de conteur sévenol. Pierre Auvernet mourait pour de bon, d'autres partaient pour le Guatemala. N'empêche que dans cet élan bigarré du début des années 70, la parole des gens ordinaires se frayait un chemin comme le lierre dans la brèche d'un mur. Est-ce à dire que le peuple a du génie ? Qu'il suffit qu'il l'ouvre pour que tout s'éclaire ? Bien sûr que non. Parler s'apprend, c'est comme réfléchir, il faut s'entraîner. Bien sûr, on trouve des tchatcheurs formidables, des baratineurs de première, mais dire ce qu'on a sur le cœur, parler d'injustice, parler de révolte, parler d'idées pour que ça change, c'est-à-dire parler pour faire sortir non seulement la peine et la rage, mais aussi les idées, c'est-à-dire découvrir en soi des richesses qu'on ignorait jusque-là, découvrir que l'on n'est pas seul et ensemble, voir se dessiner des possibles et faire d'un mur une fenêtre. Ouais, ça s'apprend. Mais où ça s'apprend ? La meilleure école, c'est la lutte. Il y a les livres, le cinoche, les récits des vieux héros, mais la meilleure façon d'apprendre, c'est de contester. Sauf que ça suffit pas. Il faut un minimum de stratégie et de méthode. Sinon, la fleur de la révolte fane aussi vite qu'un coquelicot. Le fougueux torrent se perd dans les sables. Pour bien marquer la rupture avec une société verrouillée, il fallait opposer la spontanéité et l'improvisation. Du coup, bien souvent, nous avons refusé d'accorder nos violons et même d'apprendre à en jouer. Les luttes sociales ne se limitent jamais aux seuls objectifs proclamés. Elles ouvrent d'autres horizons à ceux qui y participent. Elles les transforment d'abord eux-mêmes, bien souvent. Nous ne sommes rien, soyons tout. Vous entendez ? Nous ne sommes rien, soyons tout. Combien de femmes et d'hommes ont repris cette phrase de l'International au cours de l'histoire ? Le cœur gonflé, le poing levé, soyons tout ! Et c'est ce souffle-là qui passe dans les voix que vous entendez, qui nous reviennent aujourd'hui. Voix qui prennent la parole et qui apprennent à dégonfler les baudruches médiatiques, qui apprennent à déjouer la propagande politique, qui apprennent à débattre, qui apprennent à construire leur propre opinion, qui prennent conscience de leur propre existence en se réappropriant peu à peu le territoire de la parole. En se retournant, aujourd'hui, on mesure en face toute la puissance de l'appareil intello-médiatique mobilisé pour empêcher ce libre développement par tous les moyens, les plus insidieux ou les plus violents, en propageant l'insignifiance pour décerveler le peuple et le rendre inerte et résigné. Il n'y a là aucun complot, mais ce qui est simplement nécessaire à la classe dominante pour maintenir sa domination. À Longwy, cette classe a détruit la sidérurgie et balancé à la décharge des milliers de destins. Et à la fin, il y a une tristesse supplémentaire. C'est lorsque la direction syndicale a fait taire ses voix intempestives, trop incontrôlables, trop imprévisibles. Il faut savoir arrêter un rêve. Le cœur d'acier a cessé de battre, la radio s'est tue. La bataille a été perdue, mais la résistance a gagné. Ces documents sonores en apportent la preuve bouleversante. Les voix, les éclats, les respirations, les lèvres qui sifflotent le chiffon rouge sans savoir si elles s'éloignent à jamais ou au contraire, si elles ne font que commencer la chanson.
Eh bien d'abord, la sidérurgie et les incidents de Longwy. La situation est redevenue calme ce matin après 4 heures de très durs affrontements entre forces de l'ordre et sidérurgistes.
TF1, Jean-Pierre Pernaut.
Deux journalistes et une dizaine de manifestants ont été blessés. La CGT protestait contre le brouillage de sa radio pirate, Lorraine Cœur d'Acier. Un commentaire de Jean-Pierre Quittard.
18 mai 1979.
Pendant plus de 4 heures, en effet, Longwy, une nouvelle fois, a été le théâtre de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des affrontements, on vient de vous le dire, qui ont fait une bonne dizaine de blessés. Quant aux dégâts matériels, eh bien, jugez par vous-même avec ces images, des vitrines brisées, des bâtiments publics comme l'hôtel des impôts ou le tribunal d'instance saccagés. Voilà pour le bilan. Les manifestants, ils étaient plus d'un millier, en majorité des militants de la CGT et de la CFDT, voulaient protester en effet contre le brouillage de Lorraine Cœur d'Acier, la station radio de la CGT. Pour ce faire, ils se sont rendus en début de soirée au relais de télévision du Bois du Chat, où les attendaient d'importantes forces de police. Et c'est là qu'ont débuté les premiers affrontements. Les accrochages entre forces de l'ordre et manifestants devaient se poursuivre toute la soirée dans les rues de Longwy, avec les résultats que l'on connaît maintenant.
Alors, avant-hier matin, je crois, peut-être même avant, il y a 3 jours peut-être, un jeune homme rouquin est rentré dans le studio de LCA, il s'est présenté, Daniel Cohn-Bendit, un jeune homme qui a beaucoup fait parler de lui à certaines époques, en particulier en 1968, à Paris, et il est venu nous interviewer ici à LCA hier après-midi, alors on lui retourne la politesse aujourd'hui, et les divergences n'empêchent pas qu'on puisse causer ensemble.
Ah oui, tout à fait d'accord.
Alors Daniel, qu'est-ce que tu as comme premières impressions sur Longwy ?
Alors les deux choses qui m'ont frappé dans ce que m'ont raconté les gens, ce sont d'un côté l'imagination qu'ont développé les militants qui faisaient les actions coup de poing au début, quand ils m'ont raconté ces histoires. J'ai trouvé ça fantastique, le début, comment essayer de mobiliser, etc. C'est une chose donc qui m'a plu. Et l'autre, c'est les radios. SOS Emploi, qui a effectivement le malheur, qui a débuté, qui a pris l'initiative, mais qui a le malheur de ne pas être écouté. Et Lorraine Cœur d'Acier, parce que c'est une radio, j'ai l'impression, qui est vraiment libre. Et ça, je l'avoue franchement, ce qui m'a étonné, c'est que je n'attendais pas cette liberté de parole dans une radio qui était faite par la CGT. Moi, j'ai une expérience concrète de la CGT et elle est contraire et je suis surpris.
Quelques préjugés aussi, peut-être.
Oui, je crois.
Attention aux étiquettes, hein, Daniel.
Non, mais attention, moi, il n'y a pas d'étiquette. Je dis, j'ai une expérience concrète. Une des expériences concrètes, c'est que je me suis fait casser la figure. Alors, maintenant, tout le monde peut me dire que c'est un préjugé. Si tu te fais casser la figure par quelqu'un, t'as un préjugé contre celui qui te casse la figure.
T'avais pas de badge CGT.
Ah oui, non, mais si c'est ça la liberté, c'est de pas faire casser la figure quand on n'a pas un badge, je suis pas d'accord. Hein.
Nous poursuivons notre débat sur la condition féminine.
C'est pas tout à fait la condition féminine, hein, c'est la femme face au travail, la femme mariée, mère de famille face au travail.
Si beaucoup de femmes pouvaient savoir ce qu'elles perdent en restant chez elles, je crois qu'il y en aurait plus qui chercheraient encore du travail.
Je voudrais repasser la parole à Hélène. Là.
Je voudrais pour mon compte personnel me donner ce que ça m'a apporté de travailler chez Gilier pour ma vie. Il faut dire que j'avais déjà quand même milité dans un mouvement au syndicat du cadre de vie de mon quartier, mais ça ne me suffisait pas. Quand je suis rentrée chez Gilier, j'ai aussi, comme Jeanne, vite compris les difficultés que rencontraient les ouvrières dans cette entreprise. Il a fallu combattre pour améliorer tout ça. Et pour moi, personnellement, j'ai eu un combat à mener parce que j'avais un mari qui n'avait jamais milité. Alors de voir sa femme militer, ça lui a apporté un gros choc à lui aussi. Et pour les enfants également. Que la maman s'en aille travailler pour le petit qui avait 10 ans, c'était déjà quelque chose de très dur. Mais quand il l'a vu en plus, qu'il militait à la CGT, et qui allait encore devoir prolonger ses heures de travail, ça l'inquiétait un peu parce qu'il se demandait où il allait aller, comment il allait se retrouver à la maison. Ça s'est vite et très bien arrangé, je dois le dire. Mon mari a compris la nécessité qu'il fallait militer pour que l'entreprise marche, pour qu'on ait des meilleurs salaires et des conditions de travail meilleures.
Lorraine Cœur d'Acier, 23, 22, 35.
Alors cette radio, ce qu'elle a permis, je crois, surtout aux femmes, à découvrir qu'elle existait autrement que d'être la ménagère à la maison, qu'elles avaient découvert. Alors, c'était créé où j'ai beaucoup milité, un collectif. C'était au moment où on parlait de la contraception. Ça s'appelait CAS, contraception, avortement, sexualité. Et là, on a découvert ça, que les femmes avaient un corps, qu'elles avaient des besoins sexuels. Je pense qu'elles n'avaient pas découvert jusque-là.
Velia Di Sabatino, militante pour le droit des femmes.
Et on a découvert ce que ça voulait dire, avoir la parole et parler.
Lorraine Cœur d'Acier, 99 MHz. Bientôt, enfin dans la journée, on va changer de fréquence, ça sera 102 MHz.
Je suis censuré. J'y étais pas samedi censuré. Hein.
Tu étais la vedette de l'émission de samedi soir.
Oui, oui. Au point que maintenant tout le monde me téléphone.
À quel numéro déjà ? Non. Enfin, c'est dans l'annuaire, hein, à Sénérini, de toute façon.
Et la chanson, quoi ? La chanson qui était reprise à tout moment, ben oui, forte, je la chante régulièrement. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change ou que ça bouge, lève-toi car il est temps, voilà.
Bonjour, au micro de Lorraine Cœur d'Acier, Alain Krivine. Alain Krivine est dirigeant de la Ligue communiste révolutionnaire et il est dans notre région parce que hier, je crois, il y avait un meeting de la Ligue communiste.
Hier, c'était un meeting de présentation des idées générales, des propositions de la LCR. Quelles sont les prises de position, rapidement, enfin résumées, de la Ligue communiste révolutionnaire concernant les problèmes de la sidérurgie ?
Concernant les problèmes de la sidérurgie, nous croyons que ce qui se passe ici aujourd'hui en Lorraine fait partie d'un plan d'ensemble, d'attaque du patronat et de la bourgeoisie contre la classe ouvrière qui découle directement d'une crise qui touche tous les pays capitalistes aujourd'hui et qui a d'ailleurs les mêmes répercussions que ce soit en Belgique, en Allemagne ou en France, c'est-à-dire les licenciements massifs, ce qu'ils appellent la restructuration, mais en quelque sorte la liquidation de régions entières et d'industries, comme la sidérurgie, tout simplement parce que dans le cadre du système capitaliste aujourd'hui, le patronat estime que ces secteurs ne sont pas assez rentables, que ce sont des secteurs dans lesquels leurs profits ne sont pas suffisants et préfèrent aujourd'hui investir leurs capitaux dans des secteurs plus juteux, au mépris total, bien sûr, des intérêts des travailleurs.
Voilà quelques extraits de cette radio, Lorraine Cœur d'Acier, telle qu'on peut les trouver dans ce coffret qui sort donc ces jours-ci sur cette radio. C'est vrai que le nom est absolument magnifique, Lorraine Cœur d'Acier. Je voudrais dire une chose qu'on a peut-être mis de côté, s'il y a une qualité formidable de ces enregistrements, les archives ont pu être conservées jusque-là, c'est grâce en partie à la collaboration de certains techniciens et personnel de Radio France qui se sont pas fait remarquer à l'époque, mais qui avaient donné un coup de main à Lorraine Cœur d'Acier. Puis je voudrais dire quand même que c'était formidable ce qui s'est passé là, mais qu'à la même époque, à Radio France, on faisait beaucoup d'efforts pour faire entendre la parole des gens, entre guillemets, la parole populaire, notamment sur France Culture et dans une émission qui s'appelait L'Oreille en coin. Le dimanche après-midi, ça mérite quand même peut-être d'être précisé. Alors, ça a commencé, on l'a dit et redit, en mars 79, mais ça s'est arrêté en septembre 80. Comment ça s'est arrêté ? La fin n'a pas été très glorieuse pour la CGT de l'époque. Ça a laissé des traces plus ou moins amères dans les mémoires, et il est donc temps aujourd'hui, 33 ans après, d'évoquer la fin de Lorraine Cœur d'Acier.
Excuse-moi de t'interrompre. Oui. J'arrive pas à se voir avec les techniciens. Le son du micro bleu est un peu sourd. Si vous pouviez me donner un petit peu d'aigu dessus, merci.
Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui. Là, on est ému, c'est magnifique, on a libéré la parole, il y a des avancées, des grands moments, et ce genre d'écoute est indispensable, bien évidemment. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de tout ça, vous qui habitez dans le coin ? Quels souvenirs on a ?
Ceux qui l'ont vécu, je crois, ont gardé, après la situation de conflit et la façon dont la radio s'est terminée, je crois que chacun a gardé en soi ce qu'il avait vécu selon son Michel itinéraire, Omni, selon la place qu'il occupait ou non dans, dans la radio. Et je crois qu'aujourd'hui, le fait de ce coffret va permettre des fois aux gens de revivre ce qu'ils ont vécu et même de faire des découvertes. Parce que moi, je faisais mon travail de secrétaire d'union locale CGT de Longwy. Donc, j'ai découvert, moi, des choses qui m'ont passé à côté, mis à part les luttes.
Mais les jeunes, là, Raphaël, Pierre, Ingrid, vous êtes allés sur le terrain. Qu'est-ce qu'on vous a raconté? Vous avez rencontré les anciens, les anciennes. Que reste-t-il de ces amours radiophoniques?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a touché tout le monde et de façon très forte. À chaque fois que nous, on a rencontré des gens qui ont écouté cette radio, ils se rappellent avec une précision extrême ce qu'ils ont entendu. Parfois, les moments où ils sont intervenus à la radio, où ils ont appelé à propos d'un débat ou d'une émission. Ils ont tous des souvenirs très clairs. Donc ça, c'est quand même la force d'un moment, parce que c'est quand même 30 ans avant. Et aujourd'hui, ils en ont toujours cette trace très forte. Je pense aussi que la radio, parfois, a transformé les gens. Michel Olmi, à ma gauche ici, n'a pas encore osé le dire, mais aujourd'hui, il est photographe, en partie. Tout le monde a été un peu bousculé par cette radio à l'époque. Et ça a ouvert un peu quand même les esprits et les discussions.
Ingrid, que reste-t-il, selon vous?
Ce qui était très étonnant, en allant un peu fouiller dans cette histoire, c'est à quel point les souvenirs étaient encore à vif. Ou du moins, à quel point ils se réveillaient vite. Parce que c'est pas forcément en permanence à vif, mais... Et chaque occasion est à nouveau un moment de conflit très vif, de mémoire, entre qui est légitime pour revendiquer cet héritage, qui a eu quel rôle au moment de la reprise en main de la radio par la CGT. Et je dois avouer qu'à 25 puis 30 ans d'intervalle, c'était assez difficile à interpréter.
Nous, ce qui nous a... Bon, je dirais la même chose que les autres, c'est étonnant. Enfin, on arrive à voir des gens 30 ans après pour leur dire, racontez-nous ça. Il y a des gens qui se souviennent quasiment mot pour mot de certaines de leurs interventions, c'est sidérant. Mais il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que la fin de cette radio en juillet 80, c'est aussi la fin du bassin sidérurgique. C'est aussi la fin d'une vie qui était censée se reproduire. On serait fille et fils de sidérurgistes et on deviendrait à notre tour épouse de sidérurgistes ou sidérurgistes. Et ce monde s'effondre. Et peut-être aussi que les mémoires sont aussi vives parce que c'est la mémoire de cette période où il y a cette radio où on peut en parler, mais aussi d'une vie qui va changer, qui va s'arrêter. Aujourd'hui, à Longwy, il y a, je crois, 17 000 habitants. Il y en avait plus de 20 000 il y a 30 ans. C'est une ville qui ne s'est jamais de la liquidation.
Alors,
de la sidérurgie.
On va parler de la reprise en main. On voulait vous faire écouter bien d'autres passages, mais vous les découvrirez dans le coffret. Il y a les tranches de vie, là, les très grandes, très longues tranches de vie de un gars qui s'appelle Léonard Rizu, etc., qu'on voulait vous faire entendre. Il y a les immigrés aussi, il y avait une place importante réservée aux immigrés qui travaillaient dans la boîte. Il y a un gars qui revient de RDA, de la République démocratique allemande, et qui dit à quel point c'était formidable. Enfin, ça, c'est pas étonnant pour l'époque.
Revue de presse.
Alors, un article du Monde, livraison traîtresse d'informations, Berlin-Est. Alors, on a commencé donc en RDA à interdire aux journalistes de faire des interviews, et maintenant on interdit aux Allemands de RDA de répondre aux interviews. Alors, les bras m'en tombent, les bras m'en tombent. La RDA est un grand pays, un pays qui a fait des progrès fantastiques sur des tas de plans économiques, culturels, etc. De quoi a-t-on peur en RDA ?
Si tu me permets de corriger, parce que je connais les deux Berlin, et je peux te dire que c'est pas plus dur au fond en Berlin-Est qu'à Berlin-Ouest, quoi. Tu sais, moi, je suis pas d'accord sur ce procès qu'on fait comme ça sur les pays de l'Est, parce que c'est des relations différentes, c'est des pays qui vivent un état de forteresse assiégée pour des raisons qui tiennent à la stratégie mondiale, tu vois. Si tu vois la flotte américaine à Francfort, ces gens, ils vivent dans la frousse. On peut pas comme ça, sur un mot, faire le procès des régimes de l'Est, à mon point de vue, hein.
Non, entends bien ce que je dis. Attends, Suzanne, tu vas répondre. Il n'est pas question de faire le procès des pays socialistes. Là, il est question de juger une mesure, une loi qui vient d'être prise, qui interdit aux journalistes d'interviewer des gens en menaçant de prison ceux qui répondent.
Les gens extrapolent et pensent qu'en RDA, tout est comme ça, tu comprends. Alors, on n'a pas le droit, je trouve, en RDA, d'avoir cette attitude envers les journalistes.
Mais c'est clair que ceux à qui ça fait le plus mal, c'est nous, c'est pas ceux d'en face. Au contraire, ça leur fait plaisir.
Oui, parce que moi, je suis pas d'accord avec vous.
C'est plus grave, à mon avis, que ça se passe en RDA qu'en RFA.
Moi, j'ai vécu dans les deux pays. Enfin, j'ai été plusieurs fois dans les deux. Berlin, on est aussi heureux à Berlin-Est qu'à Berlin-Ouest. Ça fait pas l'ombre d'un doute.
Oui, ça, non, c'est...
Ici, vous gueulez contre la presse Hersant. Et la presse de la RFA, elle est entre les mains d'une seule personne.
On en a parlé aussi.
Et là, je... Non, mais je viens de passer une heure avec vous. Vous avez passé sur une heure, vous avez passé trois quarts d'heure à lire des gens d'extrême droite. Et vous avez pas cité une fois Rouge, et vous avez cité 50 fois l'Aurore. Et
ben, moi, on je a cité pas Libération.
Non, mais d'accord, mais écoute, on est là pour parler, tu vois.
Oui.
Et ben moi, dans la presse, dans la RFA, j'ai pas du tout envie de lire les gens de M. Spiegel, tu vois. Et la presse Hersant, c'est vraiment de la merde.
Oui, alors ça, ça non, alors là, je te réponds tout de suite. Si
il
on
vaut lit... mieux qu'il y ait qu'un seul journal.
Je te réponds tout de suite.
Mais il faut pas nous présenter la RDA comme un enfer et la RFA comme un paradis. C'est lamentable, tu vois.
Ça, non, on n'a jamais fait ça. Hein,
et il y a peut-être plus de liberté en RDA qu'en RFA, parce qu'en RFA, si tu vas avec le pouvoir, tu vas en prison comme croissant, tu vois. C'est un régime immonde, la RFA. La RFA, c'est un régime immonde. Et oui. T'as plus de liberté, plus de dignité en RDA. Je le sais, puisque j'y ai été.
On a parlé de ce qui se passe dans les
prisons. J'ai connu presque tous les pays de l'Est.
Et puis là, il y a une autre chose sur laquelle je voulais te répondre. Tu nous reprochais de lire les articles de l'Aurore, du Figaro, etc. Alors là, je suis pas d'accord non plus. Mais justement, nous, ce qu'on essaye de faire avec la revue de presse, c'est comment dire, essayer de montrer aux gens comment ça fonctionne, la presse, comment ça fonctionne la radio et la télévision. Et ça servirait absolument à rien de dire tous les matins l'Aurore, c'est dégueulasse, les Figaro mentent. Si on ne citait pas les articles et si on ne montrait pas comment ils mentent.
Je voudrais qu'on parle de la fin, parce que c'est ça, à chaque fois qu'on évoque ceux qui s'intéressent à l'histoire des radios de cette époque-là, c'est la fin de Lorraine Cœur d'Acier qui a laissé quand même des souvenirs ambigus. Alors, qui peut me raconter ce qu'a été la reprise en main ? Marcel ?
Oui, je peux vous raconter avec Michel. Ça commence le 17 mars 79, ça va jusqu'à l'été. Ensuite, la CGT dit, nous, on peut plus continuer à financer cette affaire parce qu'on a d'autres radios à créer, etc. Les gens de l'ONUI disent, bah, c'est pas grave, on va créer une organisation, l'association des amis de Lorraine Cœur d'Acier, et on va financer notre radio. C'est ce qu'ils ont fait ensuite.
De septembre 79 à juillet 40 000 d'anciens francs à l'époque, alors je ne sais pas en euros ce que ça donne,
400 000,
ont été collectés.
400 000 francs, donc eux disaient 40 millions.
On nous disait 40 millions. On était...
Voilà. N'empêche qu'avec ce fric... Alors,
mais d'où venait le fric? C'est chacun qui donnait.
Ils allaient aussi faire des collectes, la sortie des usines, dans les grands magasins, dans la rue, etc. Et de temps en temps, on était en pleine discussion, comme là, par exemple, une mémère qui arrive avec un sac à provisions et qui balance son sac sur la table avec
la monnaie.
La monnaie qui dégouline, là, et puis les petits billets. Et ça a fonctionné comme ça, parce qu'on était les gens qui venaient de Paris, nous deux avec Jacques Dupont, mais d'autres comme Bernard Martineau, et puis plein de copains qui venaient nous remplacer, parce que c'était exténuant, quoi, hein, comme vie. On était officiellement salariés par la vie ouvrière de la CGT, le journal de la CGT, pour garder notre carte de presse. La vie ouvrière se faisait rembourser au franc près par l'association. Donc ça coûtait plus rien à la CGT, quoi. Et puis l'été 80, donc on termine par une grande fête, et puis on se rend compte fin juillet que notre salaire n'est pas tombé. Voilà. Et donc on s'appelle les uns et les autres, et puis on finit par apprendre qu'à la CGT, il y a une décision qui avait été prise de nous virer de cette radio. Et puis peu à peu, on se rend compte qu'il y a une reprise en main, et il y a eu une nouvelle radio à la rentrée, où on n'entendait que la CGT.
Caisse de résonance.
Et qui
a duré... C'était quand même pas le titre.
Si, si, toujours.
Caisse de résonance. Non.
Oui, c'est moi qui dis ça. C'était pas le titre.
C'était toujours Lorraine Cœur d'Acier, officiellement.
Ouais.
Seulement, le problème, c'est qu'au bout de trois mois, les flics sont arrivés, et là, il n'y a pas eu de cloche d'église, il n'y a pas eu de sirène, ça s'est arrêté, tout le monde s'en foutait, quoi.
Alain Delmas, vous qui êtes à la CGT, comment vous expliquez ça? Quel souvenir ça a laissé au sein de la CGT, cette histoire?
À mon avis, ça a laissé des souvenirs douloureux
dans la région.
Ceux qui ont vécu ça dans la région. En même temps, ce qui se posait, on l'a vécu de façon différente dans d'autres radios libres ou pirates. C'était la question, voilà, on fait une radio CGT, les autres, ils ont tous les moyens, ils ont tous les médias, ils vont pas venir nous emmerder. Donc nous, on fait notre radio et les autres, on n'en a pas besoin. Et l'autre pendant, c'était, on veut une radio, on va inviter tout le monde, ce qu'avait fait Radio Lorraine Cœur d'Acier. Mais ce débat-là, moi, je l'ai connu, y compris en Gironde, on avait une radio, Radio CGT 33, Radio Pirate, après Radio Forum, et ces débats-là traversaient. C'est-à-dire radio ouverte ou radio purement militante. Et bien sûr que ça a laissé des traces. Mais je me rappelle un débat qu'on a eu à l'Institut d'Histoire, Ingrid y participait, où 30 ans après, ça revenait fort. La question...
Et pourquoi ça revient 30 ans après? Alors...
Ah, c'est les plus anciens qui ont... Il y a quand même eu des blessures. Mais par contre, quand on discute avec les jeunes militants de Meurthe-et-Moselle, qui sont partenaires du coffret, c'est la direction de la CGT de ce département avec la Fédération de métallurgie, eux, ils disent, banco, on y va. On n'a pas à avoir peur de notre histoire. On y va, ça fait partie des trucs qu'il faut se farcir et qu'il faut qu'on réfléchisse. Après,
ça fait partie du patrimoine.
Ça fait partie du patrimoine. Et c'est pour ça que ce coffret, juste dans ce coffret, il y a un passage très intéressant. Il y a une femme qui dit, voilà, elle est enseignante. Moi, à chaque fois qu'il y avait les sirènes qui sonnaient, j'y allais. Et quand j'ai vu le dernier jour les forces de l'ordre se pointer devant la radio, avec ma deux chevaux, je suis passé devant, je ne me suis pas arrêté. Voilà.
C'était plus ma radio. Voilà,
c'était plus ma radio.
J'étais dégoûté. Voilà, je crois que c'est le mot qui rend compte de mon état d'esprit. J'étais complètement dégoûtée.
Anne-Françoise Dorbeck, enseignante et animatrice à Lorraine Cœur d'Acier.
Et j'en voulais beaucoup aux responsables de la CGT qui ont mis un terme à cette radio. Ils n'ont pas vraiment mis un terme à la radio. Ils ont mis un terme, je dirais, à l'action des journalistes. Après... La beauté, justement, de cette expérience, c'était moche. C'était franchement moche, la façon dont ça s'est terminé. Je ne peux pas m'empêcher de penser que, quelque part, il y avait une jalousie. Ça marchait trop bien. Ce qu'on a connu là, l'enrichissement qu'on a eu, il faut le remettre, le replacer. Ça nous a changé, de toute façon. Je pense que ça nous a tous changé.
Pierre Baron. Non, il faut dire l'importance de cette radio, c'était énorme. Par exemple, il y a un truc qui nous ont raconté quand on allait rencontrer les militants 30 ans après sur place, c'est que quand la radio a cessé d'émettre, il a fallu qu'ils recommencent à imprimer des tracts. Parce que la capacité de diffuser une information, de mobiliser, était tellement forte qu'ils n'avaient plus besoin d'aller à 6 heures à la relève le matin devant l'usine pour distribuer les tracts et donner l'info. La radio faisait cet office-là. C'est juste pour dire la place que ça avait pris dans la vie des gens.
Ingrid ?
Mais d'un certain point de vue, la CGT s'est mise elle-même dans une situation très difficile en créant cette radio. D'ailleurs, elle ne l'a plus jamais fait de cette manière-là. Notamment, le fait d'avoir fait venir des journalistes, elle n'a plus fait. Hein. Il y a eu 40 radios de lutte en tout. Il y a eu un seul cas. Parce que les journalistes amènent leurs compétences. Ils amènent aussi leur volonté de faire de la bonne radio. Et en même temps, évidemment, ils créent les conditions d'une radio qui s'éloigne progressivement des préoccupations qui étaient celles de la Confédération au départ. Et en même temps, ils sont conscients de ça assez vite. C'est-à-dire, ils voient bien que Lorraine Cœur d'Acier est de leur radio. Alors, c'est leur première radio, mais assez vite, ils en mettent d'autres en place. Et de leur radio, c'est la seule qui marche vraiment. Bon, il y a Radio Quinquin aussi. À Denain, mais c'est une des deux seules, disons, qui marche vraiment parce que la population se l'est appropriée et parce qu'elle est de bonne qualité, parce que c'est une radio de qualité. Et en même temps, tout en créant ça, ils ont créé eux-mêmes les conditions de leur perte de contrôle, à laquelle ils mettent un terme au bout d'un moment.
Alain Delmas.
Juste, je pense que tout à l'heure, on disait qu'est-ce qui reste de cette radio. Moi, je suis à peu près persuadé que cette expérience-là, elle a laissé des traces, y compris dans les pratiques syndicales après. C'est-à-dire que quand on a une radio où on accepte d'engager des débats contradictoires, où au travers d'une démarche culturelle, on découvre d'autres visions du monde, ça bouge y compris le rapport dans les pratiques syndicales qu'on va avoir demain dans l'entreprise. En règle générale, on ne part pas indemne de toutes ces aventures culturelles. Comme nous, par exemple, à Uzès, on a passé ça l'an dernier. Il y a toujours des choses qui après résonne. Se développent, qui résonnent dans les têtes.
Michel Olmi.
Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la dernière émission, je m'en souviens très bien, c'est le 5 juillet, donc 1980. Ce jour-là, on fait tout semblant, on fait la fête, mais je ne sais pas comment les autres, ce qu'ils avaient dans la tête, mais moi, je suis convaincu que c'est terminé. C'est-à-dire que le processus s'est engagé déjà depuis plusieurs mois. Moi, j'avais été convoqué à une réunion du bureau départemental pour essayer de me convaincre d'adopter la nouvelle orientation. Je refuse, bien sûr, en disant je garde le silence, je ne m'opposerai pas. J'ai encore le drapeau de la CGT dans le cœur, donc voilà. Et il y a eu tout un processus comme ça, en coulisses. Et là, le 5 juillet, je dis c'est fini. Ce que je ne sais pas, c'est comment ils vont faire. Alors là, et c'est là que ce qu'a raconté Marcel, moi je suis en vacances et que j'apprends comment ça s'est passé. Donc là, moi je suis au pied du mur. je dirais pas qu'ils m'ont poussé dehors. C'est pas eux qui m'ont poussé, c'est moi qui ai démissionné. À un moment donné, je pouvais plus cautionner une telle radio. Je pouvais plus, en tant que président de la radio, secrétaire d'union locale, cautionner un licenciement des journalistes, alors que toute ma vie, je me suis battu contre les licenciements des travailleurs dans les entreprises. Et là, j'ai fait le choix, sans concerter qui que ce soit, même pas ma femme. Je m'en rappellerai toujours, dans la nuit, j'ai dit « j'annonce ma démission ». Et voilà. Et donc, après, ça a été, je dirais, une période de galère. Difficile, des nuits sans dormir. Enfin bon, je n'arrivais plus, à ce moment-là, à accepter cette situation. Me battre contre les patrons, alors là, je suis bon. Hein. Vous pouvez me faire confiance, donnez-moi un patron, je sais ce qu'il y a à dire. Ah, mais
Attention, on va te prendre au pied de la lettre. On va
je voudrais bien retourner l'entreprise. Bon, je suis un peu trop âgé, mais bon, j'ai encore des beaux restes. Donc, voilà. Par contre, dans ma famille, c'est comme dans une famille, quand vous avez des problèmes dans votre famille politique, moi, ça, j'avais beaucoup de mal. J'avais beaucoup de mal parce que c'était pas le sens de mon engagement syndical. C'était la fraternité, la solidarité. On se bat contre les patrons, on y va, Bertoldi, Usinor, voilà. C'était ça qui, jusque-là, m'avait animé. Donc, je suis tombé dans le gouffre, pour faire court.
Marcel, dernier mot,
pour finir. Juste un petit mot, d'une certaine manière, le fait que cette radio n'ait duré que un an et trois mois renforce aussi un peu le mythe de cette radio. C'est aussi que, du coup, il n'y a pas eu d'essoufflement, parce que ce qu'il raconte peu, c'est que les journées étaient terriblement longues. Que le soir, après avoir passé la journée au studio, ils étaient invités chez les gens pour un gueuleton, la suite de la discussion et le pousse-café, la Mirabelle, juste après. Que du coup, ils ont pu avoir cette énergie-là sur ce laps de temps relativement concentré. Certainement que si la radio avait duré plus longtemps, le contenu se serait affaibli, les énergies seraient un petit peu retombées, et finalement, ce serait devenu une radio associative comme une autre. Ce laps de temps très court donne à cette radio une forme de passion, un peu comme une forme d'histoire amoureuse très brève, très intense, qui aujourd'hui, effectivement, laisse des traces, mais qui lui donne aussi cette espèce de
Marcel, beauté. Marcel, un petit goût de Mirabelle.
Oui, la Mirabelle, poison violent, je vous mets en garde, et à tel point que tous les soirs, les gens s'inscrivaient à l'avance pour nous inviter le soir, avec tous les gens qui étaient là en fin d'émission, et c'était des repas de mariage tous les soirs, quoi. Et si bien que un beau jour, avec Jacques Dupont, on leur a dit « Pitié, pitié, on va crever, si on continue comme ça, on va crever, quoi. Puis la Mirabelle, faut arrêter. Mais ça a été
Alain Delmas,
une aventure comme on en vit dans sa vie.
On a oublié de dire que ce coffret, il a été édité par la Nouvelle Vie Ouvrière, c'est-à-dire le journal de la CGT,
et oui,
avec l'Union Départementale de Moselle et les Métallos, quoi. Donc ça, c'est à mettre à l'actif d'une discussion où il n'y a pas eu de problème. Quand on a rencontré la direction avec les trois jeunes, Marcel, Albin Poirier, ça a été banco, carte blanche de suite, quoi.
Bah okay. Je voudrais juste insister sur ce point parce que c'est important pour nous, les militants CGT. Je pense que c'est une reconnaissance de cette expérience, hein, mm-hmm, qui a été clouée au pilori, et par ricochet, une réhabilitation de ceux qui, à ce moment-là, ont pris les coups. Et je pense notamment à mes camarades qui, aujourd'hui, ne sont plus parmi nous et qui sont battus bec et ongles, justement, contre l'appareil et l'organisation. Donc, je pense que là, les nouveaux dirigeants de la CGT ont fait quelque chose qui nous fait chaud au cœur aujourd'hui.
Merci à tous.
Eh ben, le micro, pour moi, c'est une revanche, et j'ai pas honte de le dire. C'est un outil de lutte, oui. Mais je m'en suis servi aussi comme un outil de revanche. J'ai une revanche à avoir.
C'est Marcel Donati qui nous fait un fervent Figaro, justement. Bon, alors, c'est pas qu'une revanche. Hein. C'est aussi un moyen de dire aux jeunes et aux moins jeunes, voilà ce qui s'est passé. On fait un clin d'œil.
Voilà, radio. Radio Lorraine, Cœur d'Acier, deuxième partie, un morceau de Chiffon Rouge. Merci à tous, Marcel Tria, Michel Olmi, Alain Delmas, Pierre Baron, Ingrid Hayes, Raphaël Moutarde et Frédéric Rouziès. On a signalé un autre documentaire sur l'histoire de l'LCA qui s'intitule Radio Lorraine, Cœur d'Acier, La Parole Libérée, un film réalisé par Isabelle Cadière. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez retrouver toutes les précisions et faire des commentaires sur cette émission. Le même jeu sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis il y a la page Facebook de l'émission, à la technique aujourd'hui, Dofar Guéride et Jean-Philippe Jeanne. C'est Dimitri Gronoff et Chloé Sanchez qui ont réalisé cette émission, assistée d'Antoine Chao. Au répondeur, c'est Solène Cordier, qui attend vos messages au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
On fait quoi ?
Bah ça dépend. C'est quoi le montant du jackpot loto de la rentrée ?
7 millions d'euros minimum.
7 millions d'euros minimum ?
Ouais.
Ah bah les vacances sont peut-être pas finies après tout. Hein.
Ça veut dire que je reste en maillot ?
Ah bah si tu veux, mais retire quand même ta bouée canard pour aller au bureau.
Bah c'est pas un canard, c'est un cygne.
Bah espérons que c'est un bon alors.
Un bon quoi ?
Ce mercredi, jackpot loto de la rentrée de 7 millions d'euros minimum. À partager au rang 1, voire règlement.
FDJ.
Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Debussy par Muraro, la perfection du style.
Un concert de Radio France à vivre le 5 octobre à 20h, salle Playel, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France et sous la direction de Myung-Hoon Chung.
Tous nos concerts au 01 56 45 16
et sur concert.radiofrance.fr.
16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Pas de bonbonnes de gaz, pas de danger. Fin de l'alerte à Bruxelles. L'ambassade des États-Unis a dû être évacuée cet après-midi en raison de la présence d'une voiture suspecte aux abords des bâtiments. Tripoli confirme cet après-midi l'arrivée sur son sol de Mohamed el-Sanoussi. L'ancien chef du renseignement du temps de Muammar Kadhafi a été extradé ce matin de Mauritanie. Il a été remis aux autorités libyennes qui, après interrogatoire, vont décider de son sort. La compagnie aérienne Air Nigeria suspend toutes ses opérations à compter du 10 septembre prochain. Elle en effet licencié quasiment tout son personnel pour manque de loyauté. Les employés licenciés, eux, accusent leur patron, un mania du pétrole, de ne pas avoir versé les salaires et d'avoir aussi refusé d'améliorer leurs conditions de travail. Airbus annonce aujourd'hui de nouvelles commandes. La filiale de ADS annonce 114 nouvelles commandes au mois d'août, notamment un contrat de 50 appareils signé par la Chine. Les négociations sur l'encadrement des dépassements d'honoraires des médecins ont débuté cet après-midi. Autour de la table, les syndicats de médecins, mais aussi l'assurance maladie. Les discussions doivent durer jusqu'au 17 octobre prochain. En cas d'échec, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a prévenu qu'elle en passerait par la loi. La FSU fait sa rentrée ce matin et la principale fédération syndicale de l'éducation espère bien être entendue sur la loi d'orientation et de programmation pour l'école. Elle demande aujourd'hui un nouveau pacte éducatif. Il faut, dit-elle, changer les manières d'enseigner pour que les élèves s'approprient mieux le savoir. Le débat, selon la FSU, va au-delà des rythmes scolaires. 2 ans après sa condamnation définitive à la perpétuité pour 3 meurtres commis en 2004, Pierre Baudin, dit Pierrot le Fou, va déposer une demande de révision de son procès. Selon son avocat qui l'annonce, son client aurait de nouveaux éléments qui justifient sa demande et notamment de nouveaux témoignages. Des tombes juives profanées à Rostock, dans le nord de l'Allemagne, des croix gammées ont été notamment dessinées sur les stèles. Plusieurs responsables de la communauté juive allemande dénoncent aujourd'hui un mauvais climat lié en particulier à un récent jugement controversé d'un tribunal de Cologne. Jugement qui assimile à des blessures corporelles la circoncision des enfants et passible de poursuites. À ce propos, aujourd'hui, la ville-État de Berlin garantit sous certaines conditions la sécurité juridique de la circoncision religieuse. Les deux parents légaux ou tuteurs doivent avoir donné leur autorisation par écrit après avoir été informé au préalable des risques pour la santé. François Fillon, candidat à la présidence de l'UMP, souhaite aujourd'hui une opération permanence ouverte les 15 et 16 septembre prochains. Il s'agit, selon son entourage, de faciliter les opérations de parrainage de militants, un parrainage nécessaire pour obtenir le droit d'être candidat à la présidence de l'UMP lors du congrès de novembre. Il en faut près de 8 000 au total. Les premières parties de soirée de France Télévisions commencent trop tard. Ça va en contradiction du cahier des charges, selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel aujourd'hui. En 2009, l'argument de Nicolas Sarkozy avait été pour motiver justement la fin de la publicité après 20h, avait été pour un démarrage plus rapide des prime time. Alors pour répondre aux plaintes des téléspectateurs, France Télévisions s'est engagée aujourd'hui à communiquer l'horaire exact de ses programmes. Merci. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je l'ai pas accablé.
Attends une seconde. Cinéma. C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie une image.
Ça m'avait échappé.
Théâtre.
Laissez-moi terminer.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon. Oui, mais non.
Rendez-vous demain dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Carrefour de l'Odéon avec le Festival d'Île-de-France. 29 concerts en septembre et octobre dans 26 lieux du patrimoine francilien.
Ah, j'ai cru que vous aviez déjà commencé sans que je vous annonce.
Eh ben non, Sans votre annonce, je ne peux pas commencer, chère Laetitia Gaillet.
J'espère bien, la bonne émission.
Ce serait moins bien en tout cas.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Les Jeux paralympiques ont un franc succès et nous en réjouissons vraiment. Il y a beaucoup de monde, un public très très nombreux et puis il y a plein de médailles pour les Français, pour d'autres aussi bien sûr, mais enfin un petit peu de chauvinisme. Beaucoup de médailles et beaucoup de joie de voir des êtres qui dominent leurs problèmes. Preuve que même handicapé, on peut aller à l'exploit. Et dans le domaine musical, il y a un exemple fameux, le concerto pour la main gauche de Ravel, écrit pour le pianiste Paul Wittgenstein, qui avait perdu un bras à la guerre. Et d'autres compositeurs ont suivi. Jean Dubé, pianiste qu'on apprécie énormément, ici puis ailleurs aussi, vient de nous offrir un enregistrement dédié aux pièces pour la main gauche. Voici une gigue opus 135 de Camille Saint-Saëns. Gigue pour la main gauche, opus 135 de Camille Saint-Saëns. Il a composé toute une suite avec divers morceaux, diverses danses notamment.
Pour cette main qui peut être très agile, comme on l'a entendu, Jean Dubé propose donc un disque avec plein de pièces de lui-même, par exemple, et puis aussi de Debussy, de Moskowski, de Sankan, le fameux pianiste et pédagogue, de Scriabine, de Sibelius, etc., etc. Et ben voici encore Camille Saint-Saëns pour entendre un très beau violoniste, Eddie Papavrami, d'origine albanaise, qui s'est fixé chez nous, qui a vraiment une belle nature, un personnage profond, littéraire aussi, qui traduit de l'albanais Ismaël Kadare, son compatriote, et puis surtout il joue admirablement. Donc il va ouvrir la saison à Lens, la belle saison du Festival de Lens dans le département de l'Aisne. Ce sera dimanche avec l'orchestre Les Siècles, vous savez, cet orchestre composé de jeunes qui jouent sur instruments d'époque, avec François-Xavier Roth qui est très occupé, qui dirige plein d'orchestres dans le monde, mais qui donne beaucoup de son temps. Donc ce sera à la cathédrale dimanche 9 à 16h30, au programme la Symphonie Espagnole de Lalo, le Cid, de suite d'orchestre de Jules Massenet, Iberia de Debussy, le Boléro de Ravel, et puis l'Aubade du Bouffon, Alborada del Gracioso. Beau début en fanfare pour le Festival de Lens. Voici tout de suite le cher Teddy Papavrami, avec François-Xavier Roth d'ailleurs à la baguette, dans cette merveille qui est l'introduction et rondo capriccioso de Camille Saint-Saëns. C'est plein de grâce, de clarté, de virtuosité et même de passion. Mais oui, parce qu'on disait que Saint-Saëns était un personnage avant tout préoccupé de théorie, mais vraiment sa musique dément cette allégation.